Il est de ces voix qui marquent plusieurs générations. Enfant, il parcourait les plateaux de télévision tout en fréquentant son mentor, Mike Brandt. Adolescent, il devient la voix de l'inoubliable générique de Goldorak. Adulte, il devient compositeur prolifique pour de nombreux artistes tout en signant plusieurs génériques de dessins animés. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Noam sur Mélodie Radio. Bonjour Noam.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Je vais super bien et content d'être avec vous.
Bon, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Comme toutes les interviews, on commence par le plaisir démodé de notre invité. Le principe est simple, dans la chanson française, vous avez peut-être une chanson que vous trouvez démodée mais que vous adorez et que vous aimeriez partager à nos auditeurs. Alors Noam, votre plaisir démodé.
Alors, plaisir démodé, on va dire, j'adore le titre « Les yeux revolver ».
De Marc Lavoine.
De Marc Lavoine.
Ouais.
Et il est démodé, mais il reste toujours un super titre.
Un super titre qu'on diffuse d'ailleurs sur Mélodie Radio et qui, ouais, qui c'est une balade des années 80, c'est ça ? Vous l'avez dans votre MP3 ?
Ouais, bien sûr, dans mon favori.
Bon, et en tout cas, il y a des chansons qui ne sont pas démodées, ce sont les vôtres, qui restent dans le cœur de millions de Français. On va revenir d'abord sur votre incroyable carrière, mais j'aimerais, si vous le voulez bien, revenir sur vos débuts. Tout commence en Israël avec un festival de chant, je crois, que vous trouvez dans un journal. C'est bien ça ?
Oui, c'est vrai. Et je lisais toujours le journal du sport et il y avait une pub là-dedans pour des castings qui se faisaient en ce moment et pour un festival de chant pour les enfants. Donc, j'ai demandé à mon père de m'amener là-bas pour faire un casting, puisqu'il connaissait le chef d'orchestre, et puisque mon père est musicien aussi. Donc, il m'a amené là-bas, et j'ai fait un casting et j'étais accepté.
Et vous avez remporté ce festival ?
J'ai remporté la deuxième place.
Deuxième place. Ouais. Mais en tout cas, si j'ai bien compris, vous êtes repéré par Raïm Saban ?
Oui.
C'est bien ça ?
Oui, Raïm Saban, exactement. Et qui, lui, était le producteur de ce festival.
OK.
Donc, c'est la première fois qu'on s'est vu. Et donc, après ce festival, il a contacté mes parents parce qu'il a entendu ma voix. Il voulait faire un contrat d'enregistrement avec moi.
Et j'ai lu, il y avait eu des tonnerres d'applaudissements après votre prestation. Le public était conquis par votre voix.
Ben, c'est ce qui a mis la puce à l'oreille pour Rhin, parce qu'il a vu chaque fois que je finissais le titre. C'était 5 minutes d'applaudissements, donc il a compris qu'il se passait quelque chose.
Et il a décidé donc de vous engager, c'est bien ça. Et vous faites plus tard la rencontre de celui qui va devenir votre mentor, Mike Brandt. Et vous chantez, il me semble, dans les hôpitaux lors de la guerre du Kippour, c'est bien ça ?
Oui.
Et comment s'est passée cette rencontre avec Mike Brandt ?
Pendant Yom Kippour, j'ai chanté tous les jours, tous les soirs, dans des lieux différents, des bases militaires, des hôpitaux. Dans une de ces galas, cette fois c'était un grand gala avec des moyens, parce que des fois je chantais sans rien, sans micro.
A cappella ?
Avec accordéon, ouais. Avec guitare, parce qu'il fallait juste chanter n'importe comment. Mais là, il y avait du moyen, il y avait d'orchestre, il y avait des micros. Et Mike Brandt était venu aussi pour chanter devant les soldats. Et c'est là où on s'est rencontrés pour la première fois, qu'il a entendu ma voix et qu'il a dit « C'est qui le producteur de celui-là ? Il faut l'amener tout de suite en France. »
Et donc, c'est comme ça que ça a commencé.
Ils se sont rencontrés, Chaim et Mike, et voilà, ils ont mis ça en place.
Et vous partez en France en 1973-14 ?
Oui, exact.
Et vous sortez le premier succès en France, c'est en 1974. Écoutez. Difficile de choisir un thème ultra moderne pour l'époque. En 1974, les parents qui divorcent, ça devient votre premier tube. Ça vous fait quoi de rentendre ce genre de chanson aujourd'hui ?
Ça me donne des frissons.
Ah ouais ?
Ouais, franchement oui. Parce que c'est des bons souvenirs et j'entends ma voix, je suis épaté de moi-même. C'était comme si c'était une autre vie. parce que tellement de choses se sont passées depuis, mais ça reste des souvenirs incroyables.
Et oui, puisque après, à l'âge de... Donc, vous avez 11 ans à peu près quand vous êtes en France, quand vous arrivez en France, et vous devenez une immense star, vous parcourez les plateaux de télévision, avec notamment deux autres succès, Lollipop, la fameuse adaptation, et Viens maman, on va danser. Écoutez. Quelle voix! Mais vous devenez une star à cette période-là.
Merci d'abord pour le compliment. Et oui, c'est Bien Maman va danser, c'est vendu à 2,5 millions de disques. C'était un énorme succès. Et c'était beau à vivre, c'était des moments incroyables.
Et à l'âge de 11-12 ans, vous viviez comment ce succès? Est-ce que ça a changé quelque chose avec, je ne sais pas, avec... vos petits copains de classe, vos amis en France ou même en Israël?
Non, vraiment, je peux dire que j'avais de la chance. J'avais une enfance complètement normale malgré le succès, malgré les voyages. Et j'ai réussi à avoir beaucoup d'amis, pas de jalousie. Et ça s'est passé vraiment bien. J'ai de la chance par rapport à ça. Parce qu'ils peuvent avoir beaucoup de jalousie des autres enfants quand ça arrive. Ça.
Et vous, ça, vous avez traversé votre enfance et votre adolescence sous les feux des projecteurs sans trop de difficultés, en somme.
Oui, on peut le dire, oui.
En 1976, j'aimerais revenir sur ce passage, puisque c'est un an après la disparition de Mike Brandt, vous interprétez dans une émission de variété la célèbre chanson « Qui sera ?». Avec une puissance, on invite d'ailleurs nos auditeurs à retrouver ce passage sur Mélodie, mais également sur Internet. Vous chantez d'une puissance magnifique cette belle chanson.
Merci.
Non, mais c'est vrai. Et on peut se demander, mais quel souvenir vous gardez de Mike Brandt? Vous l'avez côtoyé? Il vous a poussé à Paris dans cette France des années 70?
Complètement, c'est-à-dire que c'est lui qui voulait vraiment que je vienne faire carrière ici. Et à partir du moment où je suis venu, il était à côté de moi sur toutes les étapes, les choix des chansons, les enregistrements en studio, on traînait ensemble et j'étais son petit prodige, on dit.
Oui, son petit prodige.
Voilà, donc il m'a pris Et puis, il voulait s'assurer que tout se passait bien.
Ouais. Et vous avez appris comment le jour tragique de sa disparition?
Un coup de fil qu'on a reçu. Et c'est bizarre parce que j'ai presque attendu ça. Parce qu'il avait déjà essayé de se suicider plusieurs mois auparavant. Et je le savais un peu fragile mentalement. J'ai vu qu'il avait des problèmes. Donc, bien sûr, j'étais... triste, très triste, mais en même temps, j'ai presque attendu ce genre de mauvaises nouvelles.
Si jeune, vous le sentiez, ce genre de choses?
Oui, bizarrement.
En tout cas, vous poursuivez quand même votre carrière en France et vous interprétez alors le générique d'une série qui va devenir culte pour des millions d'enfants et encore aujourd'hui. Écoutez.
Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer. Il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps.
Goldorak, ça a été un succès immense en France. Et je crois que, en lisant, en me promenant sur Internet, je crois que l'enregistrement de cette version a été quelque peu compliqué, non?
Bah, je suis venu 48 heures à Paris. J'étais à Los Angeles à l'époque. Je suis venu et j'étais très malade ce jour-là de l'enregistrement. Mais bon, j'ai quand même assuré le titre et je pensais rien de ça. Je suis rentré à Los Angeles. Je me suis dit, voilà, je suis venu chanter un titre et rien va se passer. Mmh. Et puis quelques mois après, Haim me raconte, mon producteur me dit que c'est devenu un phénomène en France et c'était complètement inattendu.
Près de 3 millions, plus de 3 millions de disques, vous avez vendu.
3 millions de disques, ouais.
C'est énorme. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que des petits-enfants écoutent encore, quand leurs parents leur montrent Goldorak, ils écoutent encore votre voix dans ce générique.
Ouais.
Ça vous fait quoi?
Bah, c'est génial.
C'est génial. Alors, vous partez après aux États-Unis, où, j'ai compris juste avant, et oui. Raïm Saban comprend que le marché du disque pour enfants doit être porteur. Il vous fait enregistrer de nombreuses versions de dessins animés. Les Cités d'Or en anglais,
exact.
Il me semble, et ou encore une reprise d'Albator, elle-même chantée en français par Éric Chardin. Vous gardez de bons souvenirs de cette période voilà, où vous rentrez pleinement dans les dessins animés et vous quittez un peu la scène?
Oui, c'est, pour moi, c'était une période d'apprentissage. J'ai commencé à apprendre mon métier de compositeur, arrangeur en studio, bosser avec des musiciens. C'était tout ce que je voulais faire. Et c'était la raison pour laquelle je suis venu vivre aux États-Unis. Donc, tout ça, c'est des expériences magnifiques que j'ai acquises. Et en plus, on avait des succès avec ces titres, ces génériques-là. C'est toujours vendu de 300, 400 000 exemplaires, et ces génériques. Et donc, en même temps que c'était un succès, c'était un apprentissage que j'utilise aujourd'hui pour ce que je fais aujourd'hui, compositeur de dessins, de séries de dessins animés.
Et oui, vous avez poursuivi dans cette voie de compositeur.
Oui.
Alors, vous partez aux États-Unis, vous enregistrez ces 45 tours, mais vous revenez malheureusement en 1988 où vous enregistrez « My Butterfly », une chanson en hommage à votre très jeune femme Kira, emportée par la maladie. Mm-hmm. Écoutez. Une très jolie chanson.
Je
crois que vous avez cherché un compositeur exprès ou un parolier exprès pour poser sur cette chanson.
Et je voulais que ce soit quelqu'un qui connaissait Kira, qui écrit le texte. Et c'est mon ami Alain Garcia qui a très bien réussi d'écrire les paroles, de montrer l'émotion de cette situation. Et voilà, j'ai fait ça pour Kira. Et...
C'est une très jolie chanson.
Merci.
Et qui sera malheureusement votre dernier véritable enregistrement en tant que chanteur.
Oui.
Pourquoi ne pas avoir poursuivi cette voie de... Vous êtes parti dans la composition, mais votre carrière de chanteur avec la voix que vous aviez, même après avoir mué, pourquoi vous n'avez pas continué à faire des disques? Vous aviez déjà fait le tour, peut-être?
J'avais plus envie.
Vous aviez plus envie?
Non, j'avais plus envie. Je voulais concentrer sur l'écriture, sur la compo. Aussi, quand on arrête de faire quelque chose comme ça, c'est difficile de retourner. C'est beaucoup une histoire d'habitude, être sur scène, être devant les gens, devant les caméras, devant les lumières. C'est une histoire d'habitude. Et quand on perd cette habitude, c'est pas du tout évident d'y retourner. Et d'ailleurs, quand je dois monter sur scène de temps en temps, là, je me fais violence vraiment. J'aime pas trop ça.
D'accord.
J'aime pas trop ça.
Vous avez peut-être fait la carrière à l'envers, finalement.
Exact. C'est exactement ça.
Ouais.
Mais bon, là, par exemple, on va faire un truc qui s'appelle Goldorak Experience, le 18 avril. Et je monte sur scène pour chanter Goldorak devant 3000 personnes au Grand Rex à Paris. Ça va être horrible pour moi. Je vais avoir le trac, j'aime pas ça. Mais quand je vois le plaisir que ça procure aux grands gamins Les gamins de 45 ans, ouais. 50 ans. Donc ça vaut le coup quand même.
C'est vrai, vous allez voir 3000 personnes qui vont vous regarder, qui vont revivre en direct leur enfance, la voix de leur enfance.
Ouais.
C'est merveilleux.
Oui, c'est cool.
Et après, donc, vous poursuivez votre carrière de compositeur. Donc, vous composez pour de nombreux artistes. Mmh. Et en 2011, vous revenez avec un tube planétaire, quelque chose d'extraordinaire sorti de derrière les fagots. Écoutez. Mais là, c'est la mienne d'adolescence. Ça, ouais. Ça passait tout le temps quand on était au collège. C'est extraordinaire. Mais vous attendiez un tel raz-de-marée de Luna ?
Vous savez, on a sorti le titre avec une autre chanteuse avant.
Miranda.
Miranda, exactement. Et ça n'a pas fait un grand succès. Ça n'a même pas passé à la radio, sur Énergie ou des trucs comme ça. Mais on croyait toujours dans ce titre. Et puis, un an ou deux ans après, ils nous ont appelés pour demander les masters parce que Luna voulait mettre sa voix dessus. On a envoyé les masters et c'est devenu vraiment un tube mondial.
Un tube mondial. Mmh. Et vous continuez à faire rêver, en tout cas, dans vos compositions de dessins animés, même le générique d'une célèbre émission sur Gulli, il me semble.
Vous connaissez tout.
Non, In the Boîte,
c'est ça ? In the Boîte, exactement. Ouais.
Ouais, vous traversez la vie des gens.
Ouais. Mais j'adore travailler, j'adore créer. J'ai la chance de bosser sur des beaux projets. Donc, et les gens se rappellent de mes petits thèmes que je compose, c'est cool.
Mais en tout cas, merci d'être venu nous voir, Noam.
Merci à vous.
Le 18 avril au Grand Rex.
Exactement.
Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous.